Nom du Seigneur soit béni. Avant de pouvoir lire dans Jean au chapitre 19, je vous invite, on va encore prier pour remettre ces moments entre les mains du Seigneur, afin qu'il puisse encore tout diriger. Seigneur, je te bénis, Père éternel, parce que c'est un privilège encore que de pouvoir nous tenir devant toi, Jésus. C'est un privilège que de pouvoir ouvrir ta parole, de pouvoir regarder encore ce que tu nous as laissé comme instruction, et de pouvoir nourrir notre âme, de pouvoir nourrir notre foi. Et ce matin, je te prie encore que tu puisses tout diriger, que tu puisses tout conduire, que tu puisses bénir ces moments, Saint Dieu, et que chacun pour notre part, nous puissions encore recevoir quelque chose de toi, parce que c'est près de toi que nous nous approchons. Ce n'est pas près d'un homme, près d'un prédicateur, mais c'est près de toi que nous venons nous tenir pour recevoir encore ce que tu as pour nous. Alors que tu puisses bénir ces moments, Seigneur, que tu puisses vraiment, Saint Dieu, conduire, Saint Dieu, par ton esprit, toutes choses, afin que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous invite, sans plus tarder, à ouvrir la parole de Dieu dans Jean, au chapitre 19. Jean, chapitre 19, c'est un premier texte que j'aimerais pouvoir lire en introduction. Ça ne sera pas le thème central de mon message, mais quand j'ai préparé ces moments, j'ai repensé à ce texte-là. On en a beaucoup parlé dans les chants, on en a parlé dans vos prières, plusieurs en ont fait mention. Jean chapitre 19, on va lire à partir du verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était accompli, dit, afin que l'Écriture se réalise pleinement, « J'ai soif ». Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Amen. On l'a dit, on l'a répété, nous sommes dans un week-end particulier, c'est le week-end de Pâques où nous commémorons la mort de Jésus. Et j'avais envie de reprendre ce texte, du moins ce texte est vraiment imposé à moi, parce que j'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur ce que Jésus a dit, « Tout est accompli, tout est accompli ». Une petite phrase, trois mots, même en grec c'est un seul mot, mais un mot qui a tellement de signification. Tellement de choses sont rassemblées dans cette expression « tout est accompli ». Quand on regarde le sens du mot grec, quand pour exprimer cette expression, on voit le sens, ça veut dire « rendre parfait », « amener au but proposé », « atteindre l'objectif ». Nous le savons, Jésus est monté sur la croix pour un objectif, pour que nous puissions être pardonnés, pour que nous puissions être lavés. Son objectif, c'était d'accomplir le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est que nous puissions être réconciliés avec le Père. Son plan, c'était vraiment que nous puissions être lavés et purifiés de nos péchés. Tout est accompli. Tout est accompli. Alors quand on entend cette expression, on comprend que dans le « tout est accompli », ça veut dire qu'il n'y a rien à ajouter. Rien n'a besoin d'être ajouté. Tout est parfait, tout est accompli. Et je crois que c'est quelque chose qui est important de comprendre parce que bien des fois, nous pouvons douter, bien des fois, nous pouvons nous remettre en question ou bien des fois, nous pouvons avoir des doutes. Hier, le pasteur à la jeunesse nous partageait sur le fait de pouvoir des fois avoir le diable qui nous amène à douter. Nous l'avons vu dans la parole au tout début, « Dieu a-t-il réellement dit ?» Et notre foi vient à être éprouvée. Et pourtant, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est parfait. Il n'y a rien à ajouter. Tout cela suffit. Tout cela suffit. Et nous allons voir, parce que c'était vraiment mon texte d'introduction, parce que je voulais qu'on puisse prendre conscience de cette importance que Jésus a tout accompli, le plan parfaitement. Mais s'il a tout accompli, il y a une autre notion que j'aimerais voir pour pouvoir avancer un peu plus loin, c'est le fait que Jésus vit en nous. On le sait, on le dit, on le chante, Jésus vit en nous. Mais j'aimerais qu'on prenne vraiment encore conscience de cela, on pourrait lire dans les Galates. Dans l'Épître aux Galates et au chapitre 2 et au verset 20, il est dit ceci, c'est Paul qui parle, il dit « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Christ vit en moi. On pourrait lire d'autres passages qui nous parlent de cela. On pourrait lire, on était dans l'évangile de Jean, on pourrait rester dans l'évangile de Jean, repartir dans l'évangile de Jean. Au chapitre 17, il y a cette prière que Jésus va faire. Jean, au chapitre 17, il y a cette prière que Jésus va faire. Le début du chapitre, on voit Jésus qui prie pour les disciples qui étaient de son temps, de ses contemporains, ceux qui étaient autour de lui. Mais il ne va pas s'arrêter là. Et à partir du verset 20, il nous est dit, donc c'est Jésus qui parle, « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es un en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as envoyés soient avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, je leur ai fait connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi, je sois en eux. » Je voulais vraiment insister sur cette réalité que Jésus est en nous. Que Jésus est en nous. Le premier texte que nous avons vu, on a vu Jésus qui dit que tout est accompli, que tout est parfait, que le plan de Dieu a été accompli. Maintenant, nous avons vu que Jésus est en nous et que Jésus vit en nous. Et c'est important de comprendre ces deux choses, que Jésus a tout accompli et qu'aujourd'hui, Jésus vit en nous. Parce que nous avons besoin de cela, nous avons besoin de comprendre que Jésus vit en nous. Et que Jésus n'est pas simplement un personnage qui est resté, un personnage qui a vécu. Mais aujourd'hui, par son esprit, Jésus est vivant en nous. Et si nous pouvons marcher, si nous pouvons avancer, si nous pouvons progresser, c'est parce que Jésus vit en nous. Et je crois que ce matin, c'est important de pouvoir nous rappeler cela. C'est important de nous rappeler cela parce que je voudrais aller un peu plus loin avec vous. Et on va arriver au texte que j'ai vraiment eu à cœur de partager avec vous. Et il se situe dans Hébreux. Hébreux au chapitre 1. J'ai eu à cœur de partager ces choses parce qu'il y a 15 jours de cela à peu près, j'ai écouté une prédication. Et cette prédication m'a vraiment marqué et interpellé. Et elle m'a amené à chercher et à pousser un peu plus parce que justement, il y avait certaines choses qui m'avaient touché. Et j'ai vraiment cherché du coup, et ce matin, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de pouvoir vous le partager, de pouvoir partager cette réflexion que j'ai eue. Donc, Hébreux, chapitre 1, on va lire le verset 3. On va lire à partir du verset 1. Hébreux 1, verset 1. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces derniers jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de Dieu, la majesté divine, dans les lieux très hauts. C'est un texte bien particulier, un texte extraordinaire qui nous rappelle encore toute l'œuvre de Jésus-Christ. Et je vais relire ce passage, surtout le début du verset 3, parce que ce matin, j'aimerais qu'on puisse vraiment s'arrêter sur ce verset-là, sur cette partie de verset. Et je vais vous le lire dans différentes versions. Je vous l'ai lu déjà dans la version seconde 21. Dans la version seconde que beaucoup d'entre vous ont, il est marqué « étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne ». Dans la semeur, il est dit « ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être ». Dans la version Darby, il est dit « étant le resplendissement de sa gloire et l'empreinte de sa substance ». Et c'est vraiment ce verset-là qui m'a interpellé. Et un mot en particulier, c'est dans la version Seger, c'est l'empreinte de sa personne ou l'expression de sa personne. Et je me suis amusé à regarder en profondeur ce mot, comment il était marqué dans le grec, comment il était vraiment la signification exacte qu'il avait. Et c'est étonnant de voir combien, quand on prend le temps de lire la parole de Dieu, quand on prend le temps de s'arrêter sur certains textes, combien il y a certaines révélations qui sont excellentes. Et je vous encourage, frères et sœurs, à pouvoir des fois prendre le temps de vraiment vous arrêter sur peut-être des versets que vous connaissez par cœur, des versets que vous avez peut-être l'habitude de réciter, qui pour vous sont une source, une force, de pouvoir vous arrêter dessus et de pouvoir creuser, de pouvoir lire dans différentes versions, de pouvoir peut-être aller chercher le mot en grec. On a des outils aujourd'hui, je ne parle pas le grec ancien couramment, rassurez-vous, mais on a des outils qui nous permettent de pouvoir aller chercher en profondeur. La technologie aujourd'hui a tellement évolué qu'on peut un claquement avoir des outils, mais quelle grâce d'avoir des outils à notre disposition pour pouvoir vraiment étudier la parole de Dieu en profondeur. On a parmi nous un couple qui travaille à la traduction de la parole de Dieu, et il y a combien et combien de peuples qui sont là sans avoir cette grâce de pouvoir lire la parole de Dieu dans sa propre langue, dans sa langue maternelle. Et nous avons cette grâce de pouvoir la lire même dans différentes versions. Je voudrais vraiment vous encourager dans cela. Et pour revenir vraiment au sujet, l'empreinte de sa substance, dit Darby, ou l'empreinte de sa personne. Et le mot qui est utilisé pour donner cette expression, c'est le mot caractère, qui a donné en français caractère. Et en grec, c'est ce mot caractère. Mais ce mot caractère a une signification bien particulière parce que ce mot-là est utilisé une seule fois dans toute la parole de Dieu. Et il signifie, c'est l'instrument utilisé pour graver ou pour sculpter. C'est la marque qui est sur cet instrument ou qu'il produit l'empreinte. Quand un sculpteur prend un morceau de bois et qu'il passe avec son couteau pour commencer à sculpter, et en fait c'est ce fait-là de pouvoir marquer son empreinte avec l'outil. Mais qu'est-ce que cela peut nous parler ce matin? Il y a un autre petit sens, c'est l'expression exacte, l'image, d'une personne ou d'une chose. Une reproduction précise en tout point. Une reproduction précise en tout point. Et quand nous regardons ce texte, et quand c'est pour cela que j'ai voulu prendre les deux autres textes avant, parce que là, il est parlé du Fils, de Jésus. Il est parlé de Jésus qui est l'empreinte parfaite de Dieu. Il est parlé de Jésus qui est vraiment le reflet, l'image exacte en tout point de Dieu le Père. Et nous l'avons vu juste avant, Jésus vit en nous. Jésus vit en nous. Mais cela signifie que l'expression parfaite de Dieu vit en nous. Alors, vous me direz, pourquoi autant de défauts en nous? Pourquoi autant de choses qui sont mauvaises? Pourquoi, malgré qu'on ait donné toute notre vie à Christ et qu'on dit et on le confesse que Jésus est notre Sauveur, Jésus est notre Seigneur, pourquoi alors encore y a-t-il tant de choses qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas à la gloire de Dieu ou qu'on aimerait changer? Ou comme quand Paul disait « Je ne fais pas le bien que je veux faire, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. » Pourquoi tout cela? Pourquoi tout cela si celui qui a tout accompli, si celui qui est le reflet, l'image exacte de Dieu le Père vit en nous? Pourquoi? Et c'est là où ce mot prend toute son importance. Son premier sens prend toute son importance. Parce que ce mot caractère a vraiment ce sens de l'instrument utilisé pour graver ou pour sculpter. Et quand on prend un sculpteur qui va sculpter quelque chose, par exemple dans un bout de bois ou dans une pierre ou dans quelque chose, il y a tout dans la pierre. Il y a tout. Il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose. Il y a tout. Quand on prend un tronc d'arbre, on ne voit pas un sculpteur venir coller quelque chose. Bon, ça peut arriver dans l'art abstrait ou autre chose. Prenons un exemple simple. Quand on prend un bout de bois et qu'on va pour le sculpter, pour le travailler, la matière est brute. Mais il y a tout dedans. Quand le sculpteur voit ce morceau de bois, il ne voit pas un morceau de bois. Il voit déjà l'image de ce qu'il veut faire. Et Dieu, c'est la même chose en nous. Il y a tout en nous. Il y a tout en nous. Puisque le Fils, celui qui a tout accompli, vit en nous. Mais pour que l'expression du Fils puisse vraiment jaillir au travers de nous, il y a besoin de sculpter, comme le sculpteur va sculpter le bois. Il va commencer à le couper d'un côté, et puis après il va commencer à le râper, et puis après il va commencer à le frotter, et puis il va utiliser un autre outil, et puis encore un, et puis encore un. Jusqu'à ce que l'image, jusqu'à ce que la forme qu'il veut obtenir puisse jaillir. Et si Dieu fonctionnait de la même manière avec nous? Et pour cela, on peut regarder la parole de Dieu. Il y a tellement d'exemples. On va pas apprendre les textes, mais je vais vous citer quelques personnages de la parole de Dieu. Joseph était un jeune homme qui a fait un rêve, qui a eu cette vision comme quoi il serait celui qui dominerait sur ses frères. Il serait celui qui devant qui tout le monde s'agenouillerait. Il savait ce qu'il serait, mais il avait besoin d'être émondé, il avait besoin d'être travaillé, il avait besoin que son caractère puisse changer, il avait besoin d'apprendre cette dépendance totale à Dieu. Et Dieu l'a sculpté. Au travers de différentes épreuves, Joseph a été vendu par ses frères, il a été jeté dans une citerne, il a été vendu. Il a été utilisé comme un esclave, trahi alors qu'il était fidèle. Il a été mis en prison, il a été oublié alors qu'il avait donné des révélations. Et beaucoup, beaucoup d'années sont passées. Jusqu'à ce que le temps où était arrivé, où Joseph était prêt. Joseph a été sculpté, Joseph a été frotté, Joseph a été émondé. Afin de pouvoir faire jaillir le Joseph que Dieu pouvait utiliser. Celui qui allait être le numéro 2 de l'Égypte, celui qui allait amener la bénédiction sur toute sa famille, sur tout le peuple de Dieu. Et on pourrait regarder d'autres personnages. J'ai pensé à Jacob. Vous savez ce que signifie Jacob ? Le trompeur. Jacob, avant qu'il naisse, il y avait une prophétie sur sa vie. Il y avait déjà quelque chose. Mais Jacob va faire beaucoup d'erreurs. Il va essayer d'obtenir la bénédiction par sa propre force, par ses propres moyens, par sa propre ruse. Et ça va lui jouer des tours. Il va devoir fuir devant son frère. Il va devoir partir. Et celui qui était le trompeur a été trompé à plusieurs reprises. Et Jacob a passé du temps jusqu'à ce que Dieu le rappelle et lui dise « Il faut que tu retournes dans ton pays. Retourne vers ta famille. » Mais Jacob a été changé. A été changé à tel point qu'à un moment, il va avoir une rencontre particulière avec Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'il va se battre avec un ange jusqu'au matin. Et il va dire cette parole, il va dire à l'ange, je ne te laisserai pas partir que tu ne m'aies béni. Et l'ange va dire, mais comment tu t'appelles? Je m'appelle Jacob. Tu ne seras plus Jacob, tu seras Israël. Israël signifie celui qui a lutté avec les hommes et avec Dieu et qui a été vainqueur. De Jacob le trompeur, il passe Israël, celui qui est vainqueur. Et on voit combien Dieu va utiliser les temps et les circonstances. Dieu va utiliser son beau-père pour pouvoir le changer. Dieu va utiliser son frère pour pouvoir le faire changer. Dieu va utiliser les temps et les circonstances afin que Jacob devienne l'héritier de la promesse. Afin que Jacob puisse devenir celui que Dieu voulait qu'il devienne. Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais Dieu ne pouvait pas être le Dieu d'un trompeur. Il fallait que Jacob change. J'ai pensé encore à David. J'ai pensé encore à David. David va avoir une réunion ultra importante et il ne va même pas être invité. Quand le prophète va venir dans sa famille pour oindre le futur roi, David, on l'a oublié, il est dans les champs encore. Pourtant, c'est lui qui va devenir roi. On va l'appeler, et il va venir, on va le oindre, il va dire, David, tu seras roi. Mais il y a tellement d'années qui sont passées avant que David devienne roi. Et pendant ces différentes années, David a eu des réussites, il a eu des victoires. Mais David s'est fait humilier. David a été chassé par Saül. David a été humilié, vraiment. Et il s'est humilié devant le roi Saül. Il a cette expérience dans la caverne d'Abulam où il est là et tout le monde le pousse à pouvoir tuer Saül, qu'il le poursuit. Et David va dire, est-ce que je porterai la main sur loin de l'Éternel? David a appris à attendre. Il savait qu'il était roi, il était déjà un roi. Et même après la mort de Saül, David a attendu. David a appris l'humilité. David a appris la patience. David a appris tellement de choses. David avait une promesse, mais il fallait que le cœur de David soit sculpté, afin que David puisse vraiment devenir l'homme selon le cœur de Dieu. Et durant toute sa marche, David a mené des batailles, David a été émondé, David a souffert certaines choses, David a réussi tellement de choses, et en même temps, il a eu tellement d'épreuves. Parce que Dieu a formé David. Et Dieu a avec son couteau de sculpteur, a sculpté David. Alors des fois, on a l'impression que ça peut faire mal. Des fois, on a l'impression que ça peut vraiment nous blesser. Mais Dieu se sert des temps et des circonstances pour nous amener là où il veut que nous soyons, afin que l'image parfaite de Dieu puisse rayonner en nous. Afin que celui qui a tout accompli et qui vit en nous puisse totalement s'exprimer au travers de nous. Il y a la même expression qui est reprise dans les Galates, où Paul va dire aux Galates, « Mes enfants, au chapitre 4 et au verset 19, il est dit, « Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Et on retrouve la même pensée, que Christ soit formé en vous. Il y a plusieurs textes qui font référence à cela, le fait de vraiment former Dieu en nous. Jésus doit être formé en nous. Jésus vit en nous. Et Jésus est entièrement en nous. Il est le reflet parfait de la gloire de Dieu. Ce mot caractère nous parle de cela. Mais pour que Jésus puisse totalement vivre en nous et être exprimé totalement, il faut permettre à Dieu qu'il puisse nous sculpter, qu'il puisse enlever ce qui ne va pas, qu'il puisse retirer la matière qui est en trop, qu'il puisse retirer ce qui vient de nous et qui n'est pas à sa gloire. On utilise souvent cette expression du vase parce que c'est une image qui est reprise dans la parole de Dieu et c'est le même sens. Nous sommes comme de l'argile entre les mains du potier. Et le potier fait ce qu'il veut avec l'argile. Il prend l'argile et le façonne comme il veut. il prend le temps de façonner avec ses mains un vase afin de lui donner une forme particulière. Et chacun d'entre nous, nous sommes des vases entre les mains de Dieu. Et chacun d'entre nous avons une forme bien particulière. Ça ne sert à rien de regarder le vase d'à côté et lui dire « Ah, toi, tu as quelle forme ?»« Oh, moi, j'aurais bien aimé avoir cette forme-là. » Non. Le Seigneur Jésus prend le temps avec toi, individuellement, personnellement, afin de pouvoir te donner la forme qu'il veut que tu sois. Parce qu'il a quelque chose de particulier pour toi. Parce qu'il a quelque chose de particulier pour toi. Pour toi personnellement, pour toi individuellement. Mais il faut accepter que Dieu puisse te former. Il faut accepter que Dieu puisse retirer certaines choses dans ta vie. C'est vrai que dans Jacques, il nous est parlé des épreuves. Dans 1 Pierre, il nous est parlé des épreuves. C'est vrai, la parole de Dieu nous dit que des fois, l'épreuve peut nous attrister pour un temps. Mais combien nous en sortons fortifiés quand nous savons tourner nos regards vers Christ et quand nous acceptons qu'il puisse peut-être retirer certaines choses qui ne vont pas. Tout ce que nous arrachons au début peut faire mal. Mais après, une fois que ça cicatrise, cela peut nous libérer. Et le Seigneur Jésus voulait nous rappeler cela ce matin. Le Seigneur Jésus voulait mettre en évidence l'importance de comprendre combien le Seigneur Jésus veut nous former pour sa gloire. Ce mot caractère est vraiment particulier. L'instrument utilisé pour graver ou pour sculpter. L'expression exacte. Une reproduction précise en tout point. Jésus vit en nous. Jésus a tout accompli. Jésus est parfaitement entier en nous. Mais nous avons besoin d'être sculptés par les mains du Seigneur. Nous avons besoin d'être formés comme il veut. Parce que le Seigneur Jésus a vraiment d'excellentes choses pour chacun d'entre nous. Jésus a des promesses. Quand on regarde la parole de Dieu, on voit combien le Seigneur a tellement de choses bonnes et excellentes pour chacun d'entre nous. Le temps me manquerait ce matin de pouvoir citer tellement et tellement de promesses. Quand on connaît dans Jérémie ce passage où il nous est dit que « car j'ai formé des projets de paix et non de malheur, un avenir et une espérance ». Mais il y a tellement d'autres choses dans la parole de Dieu. Il nous est dit que nous sommes plus que vainqueurs. Il nous est dit que Dieu a guéri toute maladie. Il nous est dit que Jésus marche avec nous chaque jour, qu'il est cette lumière sur notre sentier. Il y a tellement de promesses et de bénédictions. Dieu, Jésus lui-même, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, le Seigneur Jésus marche à nos côtés. Tous les jours, le Seigneur Jésus est là, présent. Nous pouvons nous tenir dans sa présence. Nous pouvons venir et nous tenir avec assurance devant le trône de la grâce. Non parce que nous sommes parfaits, mais parce que Jésus a tout accompli. Nous pouvons nous présenter devant le grand Dieu qui a créé l'univers, qui est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Et nous qui sommes rien, nous qui sommes de pauvres pécheurs, nous pouvons nous présenter devant ce roi des rois en toute humilité. Et nous pouvons rentrer dans sa présence. N'est-ce pas quelque chose d'excellent ? N'est-ce pas une grâce immense que de pouvoir se tenir devant la présence du roi des rois? Chacun, nous pouvons, pour notre part, expérimenter tellement et tellement de choses. Et je sais que beaucoup d'entre vous, ce matin, pourraient rendre des témoignages de ce que Dieu a fait dans vos vies, de comment Dieu a été fidèle, de comment Dieu a été patient, de combien Dieu a été bon, de combien Dieu a été rempli d'amour à votre égard, de combien Dieu a pourvu, de combien Dieu a fait tant et tant de choses. Alors ce matin, je vous pose cette question et je la laisse sur votre cœur. Est-ce que vous acceptez que Dieu puisse vous façonner? Est-ce que vous acceptez que Dieu puisse vous sculpter pour que vous puissiez refléter sa gloire? Pour que le Seigneur Jésus puisse totalement s'exprimer au travers de vous, dans vos vies personnellement, mais aussi pour les autres. Parce que tout ce que le Seigneur Jésus fait pour nous, on ne doit pas le garder pour nous, c'est impossible. Cette lumière brille tellement qu'il nous faut la partager aux autres. Tout ce que le Seigneur Jésus fait, la transformation qu'il fera dans vos vies, la transformation qu'il a commencé à faire et qu'il continuera à faire, se verra par les yeux des autres. Nous serons des témoins, nous serons des lumières. Mais Dieu a besoin de te façonner. Dieu a besoin de te façonner. Qu'est-ce que j'aime quand le Seigneur Jésus, qui était le Fils de Dieu et qui pourtant quand il était sur cette terre et qui s'est dépouillé de toute sa gloire, a accepté de suivre parfaitement le plan de Dieu. Quand l'Esprit l'a conduit au désert, il est parti au désert. Quand l'Esprit le poussait à prier, il partait prier. Quand l'Esprit le poussait à faire un détour pour aller voir une femme qui était pécheresse, mais qui avait besoin du salut, il le faisait. Combien le Seigneur Jésus a été obéissant en tout point à son Père. Et il est un modèle pour nous. Et nous avons besoin de pouvoir nous rappeler ces choses. Et nous avons besoin de pouvoir nous tenir dans la présence de Dieu pour que le Seigneur puisse nous façonner. Parce que si le Seigneur Jésus veut nous façonner, il faut que nous puissions prendre du temps avec lui. Parce que pour sculpter quelque chose, il faut du temps. On voit je ne sais pas si vous avez déjà vu des sculpteurs faire les choses, mais ils prennent du temps. Ils commencent à faire, ils font le plus gros, ils laissent, puis ils reviennent, et puis ils continuent un peu plus, et puis ils vont commencer à sculpter les détails, un peu plus précis, encore plus précis. Et plus vous avancerez avec le Seigneur, plus votre foi avancera, plus votre marche avancera, plus le Seigneur vous sculptera dans les détails. Plus le Seigneur va vous sculpter dans les détails. Mais combien l'œuvre est belle après. Combien l'œuvre est belle. Quelle grâce que de pouvoir refléter le Fils de Dieu. Quelle grâce que nos vies puissent être à sa gloire. Frères et sœurs, ce matin, je voulais vraiment vous encourager sur cela. Vraiment vous encourager. Je voulais fortifier votre foi. Parce que c'est vrai, des fois, on ne comprend pas toujours pourquoi nous passons par certaines épreuves. Pourquoi on ne comprend pas, des fois, on ne comprend pas toujours pourquoi la maladie est sur nos vies. On ne comprend pas toujours pourquoi l'opposition est toujours en face de nous. Mais quand on regarde la parole de Dieu et qu'on voit combien certains hommes de Dieu ont été utilisés pour la gloire de Dieu, ont subi des naufrages, ont subi des épreuves. Quand on pense à Job qui a tout perdu, mais qui n'a pas perdu sa foi. Il avait beaucoup de questions, il ne comprenait pas tout ce qui lui arrivait, mais il savait que Dieu était Dieu. Et dans nos vies, bien des fois, il en va de même. Nous passons des fois par des moments tellement compliqués, nous passons par des épreuves qui peuvent vraiment nous ébranler, qui peuvent vraiment nous faire pencher, prêts à tomber. Mais nous devons, dans ces moments-là, regarder vers Christ et nous rappeler qu'il tient toutes choses entre ses mains. Et nous rappeler peut-être de certains versets comme qu'il ne nous éprouvera pas au-delà de nos forces. Et comprendre que le Seigneur Jésus est peut-être en train de travailler ton cœur, travailler ta vie, parce qu'il veut t'amener plus loin. Parce qu'il veut te faire découvrir de nouvelles choses. Quand on voit les personnages que j'ai cités dans la parole de Dieu, combien on voit que quand l'Esprit les a travaillés, quand Dieu les a changés, combien ils ont vécu autre chose. Combien la bénédiction derrière a été grande. Et ce matin, je crois que le Seigneur Jésus veut nous amener plus loin. Je nous ai rappelé que le Seigneur Jésus a tout accompli sur la croix. C'est parce que c'est lui qui fait tout en nous. Nous devons accepter de pouvoir nous placer sous sa main bénissante. Nous devons accepter de nous placer totalement sous sa main afin qu'il puisse travailler nos cœurs et que notre foi puisse rester en lui. Ce n'est pas parce que tu vas faire des efforts dans tous les sens que tu seras meilleur, mais c'est parce que tu vas venir te tenir devant le Seigneur. Et que tu vas faire l'effort de te tenir dans la présence de Dieu, que tu vas faire l'effort de lire ta parole, que tu vas faire l'effort de passer du temps avec ton Seigneur, que ce soit dans la louange, que ce soit dans la prière, que ce soit, peu importe, dans ton moment d'intimité à toi, toi et toi avec le Seigneur. Et là, le Seigneur va travailler ton cœur. Là, le Seigneur va pouvoir peut-être mettre le doigt sur ce qu'il faut enlever, sur ce qu'il faut ôter, sur ce qu'il faut couper. Mais tout cela pour sa gloire. Tout cela pour sa gloire. Je ne vais pas aller plus loin, frères et sœurs, parce que je voulais vraiment qu'on reste sur cette pensée-là, que le Seigneur Jésus désire une chose par-dessus tout. C'est que comme lui, Jésus-Christ, était l'expression parfaite, la reproduction précise en tout point de Dieu le Père, il veut être ceci dans nos vies. Et il veut que nous soyons le reflet de sa gloire. Il veut que nous soyons celui et celle qui marche pour la gloire de son nom. Alors le Seigneur Jésus veut vous bénir. Et ne voyez pas les différentes épreuves comme forcément de l'opposition ou forcément des difficultés et à vouloir forcément comprendre le pourquoi vous passez par ceci et par cela. Mais en toute chose, tournez vos regards vers Christ. Tournez vos regards vers Christ et il vous bénira. Amen. Seigneur Jésus, je te bénis, Père éternel, parce que tu désires bénir nos vies. Seigneur, tu as accompli le plan parfait que ton Père avait établi depuis la nuit des temps, à savoir de venir sur cette terre, de monter sur cette croix, de porter tous nos péchés, de mourir et de ressusciter. Tu as pu le dire une fois que tu étais sur la croix, que tout était accompli. Et cela, c'est pour notre gloire. Cela, c'est pour notre bien, Jésus. Tout est accompli. Aujourd'hui, nous savons que tu vis en nous, car tu nous as laissé ton esprit et ton esprit vit en nous. Et c'est une grâce immense que de savoir que tu vis en nous. Mais maintenant, Seigneur Dieu, nous nous plaçons tous ensemble encore devant toi, afin que tu puisses vraiment, Seigneur Dieu, venir faire totalement éclore, Seigneur Dieu, cette présence en nous. Et que tu puisses venir vraiment sculpter, Seigneur Dieu, nos vies, afin que ta gloire soit manifeste en nous, afin que nous soyons remplis de ce que tu veux que nous soyons remplis, et que nous puissions prendre la forme que tu veux que nous prenions, afin que ton nom soit glorifié, afin que ceux qui ne te connaissent pas puissent te rencontrer, afin que nous soyons vraiment le reflet de ta vie, le reflet de ta gloire, pour la gloire seule de ton nom, Jésus. Car nous désirons plus que tout que ton nom soit élevé. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié, Père. Amen.